Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Et vous l'aurez sans doute constaté dans le générique, eh bien nous sommes en plein mondial. Et comme chaque semaine, dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et vos commentaires, hein, chers auditeurs, sur la page, je le disais tantôt. Et nous attendons également vos appels en direct. Composez le plus 1-202-205-26-33. Plus 1-202-205-26-33. Merci d'être avec nous. Eux également sont là. Nos intervenants habituels, nous allons retrouver Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM est aussi avec nous depuis Kinshasa en RDC. Bonsoir Thierry.
Bonsoir à tous.
J'espère bien sûr qu'on vous entendra mieux d'ici là. Et aussi, on a Élisée Oumpatine depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée. On n'a pas encore Élisée. Ok, donc on va d'ici là content de reconnecter avec... Boïcon, eh bien, Jules Valentin Ngwe, c'est à Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Merci à tous. Je le disais tantôt, nous sommes en plein mondial 2018 avec ses lots de surprises. L'Afrique est présente en Russie et le match Angleterre-Tunisie est en cours pour le moment. 1-1 entre Anglais et Tunisiens. Harry Kane a ouvert le score pour les Anglais à la 11e avant que Sassi ne rétablisse la parité sur pénalty à la 35e. Je rappelle que le match n'est pas encore terminé, donc il est en cours. Mais déjà, Amine, quelle impression est les aigles de Carthage inspirent après cette première partie? Amine.
Il les a bien pressés. Ils ont eu du mal à respirer jusqu'à l'ouverture du score par Harry Kane. Ensuite, il y a eu l'incident avec la blessure du gardien Hassan, qui a obligé l'entraîneur Nabil Mahlou à effectuer un premier changement et à le remplacer. Et on a vu une équipe de Tunisie qui a commencé à desserrer les taux petit à petit jusqu'à parvenir à obtenir ce pénalty à la 28e minute sur une grossière erreur de Kyle Walker qui a retenu Farabine Ben Youssef, l'attaquant tunisien. Et depuis le point de pénalty, on a eu le premier but africain grâce à Sassi, le joueur de l'Hilal d'Arabie Saoudite. Et puis, les Anglais ont eu quand même quelques occasions nettes de scorer. Ils auraient pu largement mener au score à la mi-temps. Sans dire long sur les capacités des Tunisiens qui ont plié mais n'ont pas rompu. Et surtout, les Anglais sont rentrés au vestiaire certainement avec un sentiment de frustration puisqu'ils auraient pu mener au score et s'assurer quasiment les 3 points de la victoire. Ça doit renforcer l'équipe tunisienne qui fait mieux que résister, qui possède quelques belles individualités avec un jeu collectif assez agréable à voir. Mais il est vrai qu'en tout début de rencontre, c'est peut-être le stress de la Coupe du Monde ou le trac d'une sélection qui retrouve le mondial après 12 ans d'absence. Les Anglais les avaient pris à la gorge et les Tunisiens ont eu du mal à déployer leur jeu. Pour le moment, un but partout. Nous jouons à la 49e minute à Volgograd. Une belle pelouse, mais beaucoup de moustiques autour de la pelouse. Ça devrait handicaper tout au long du match les 22 acteurs de la partie.
Merci Amine, vous parliez comme si vous y étiez, on vous a très bien compris. Pour le premier match de la journée, la Belgique a fait craquer le Panama 3-0 pour son entrée dans le Mondial 2018. Longtemps accroché, les Diables Rouges ont monté d'un cran en deuxième période et fini par faire plier le Panama, qui disputait le premier match de Coupe du Monde de son histoire. Romelu Lukaku a inscrit un doublé en quelques minutes, 69e et 75e. Auparavant, Dwight Mertens avait ouvert le score d'une superbe volée lobée. Alors, Jules, on dira que les Diables Rouges ont sonné fort d'entrée.
Oui, les Diables Rouges ont frappé fort, mais il faut dire que le score ne reflète pas réellement l'opposition sur le terrain. C'est l'expérience qui a joué et d'un autre côté, il y a eu un peu de naïveté de la part des Panaméens qui auraient pu revenir au score et même qui ont eu 3 occasions de duel pendant que la Belgique menait par 1-0 avant que le Lukaku ne se réveille et assomme les Panaméens aux dernières minutes de jeu. Donc, on le voit, le score aurait pu être autre. Donc, et Panama a montré un assez bon visage du début à la fin de la rencontre, mais trop de naïveté dans le jeu et de l'autre côté, beaucoup d'expérience sur la balance. En fin de compte, 3-0, et la Belgique a fait une belle affaire.
bien avant la Suède, pas attendue en tête du groupe F, en tout cas est pourtant bien première de ce groupe après sa victoire 1-0 devant la Corée du Sud. L'Allemagne championne à titre et favorite du groupe, en tout cas avant le début de la compétition, est deuxième. La Mannschaft a très mal commencé son mondial en s'inclinant hier lors de sa première sortie contre le Mexique. Alors Thierry, dur hein, pour la championne en titre.
Dur effectivement pour l'Afrique, on espère juste que la solution ou la situation va s'améliorer un petit peu avec la Tunisie, même si les autres de Carthage continuent à souffrir pour le moment, mais on attend voir. Pour le moment, la première journée a été assez décevante pour les représentants africains, sauf
Thierry. Thierry, vous m'entendez? Thierry, vous m'entendez?
Allô?
Oui, je disais plutôt dur pour la championne en titre, l'Allemagne. La connexion n'est pas bonne avec Kinshasa. On va essayer de reprendre Thierry d'ici là. Et donc, Jules, je le disais tantôt, dur pour la championne en titre, l'Allemagne, même si Thierry avait déjà commencé à nous parler de ses prestations et des équipes africaines au mondial.
Oui, bien sûr, l'Allemagne qui a un peu bloqué lors de ce match, notamment au niveau de ses couloirs et de son milieu de terrain. Les Mexicains ont joué à fond le jeu dans cette opposition de très horrible et ils ont mérité leur victoire. Mais je rappelle que en 1954, l'Allemagne avait commencé par une défaite 7-3 contre la Hongrie et elle a retrouvé la même Hongrie en finale et l'a battu 3-1. Donc la compétition ne fait que commencer pour ce mastodonte.
La compétition ne fait que commencer. Parlons des Africains à ce mondial-là. L'Afrique est passée à côté de la plaque jusque-là, en tout cas pour le moment. L'Égypte a tenu devant l'Uruguay avant de craquer dans les arrêts de jeu. Sans Mohamed Salah, bien sûr, 0-1. Le Maroc n'a pas trouvé de solution face à l'Iran et a même plié les Chines dans les ultimes moments des arrêts de jeu. But contre son camp d'Aziz Bouadbouz. Même scénario cruel pour l'Égypte. Le Nigeria n'a pas existé, on va le dire comme ça, dans son premier match face à la Croatie. Élisée Oumpatine vient de nous rejoindre depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir tous les amis auditeurs de la VO Afrique.
Alors Élisée, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, ce sont des débuts difficiles pour le continent africain.
Oui, début vraiment compliqué, hein, très compliqué, difficile pour les continents africains. D'abord, l'Égypte qui aurait pu faire un bon résultat contre l'Uruguay, qui était plus forte que l'Égypte. Donc, c'était un résultat logique. Et c'est vrai que les Égyptiens étaient privés de leur star, Mohamed Salah, qui pouvait faire quelque chose s'il était sur le terrain. Et quelqu'un capable de donner de très bonnes passes et aller finir également. Et côté marocain, c'est une grande déception puisque l'Iran était à sa portée, mais voilà, l'équipe marocaine a pêché en attaque, surtout au niveau de son attaque où les attaquants ont joué trop juste. Ils ont voulu trop bien faire et finalement, ils n'ont pas pu trouver la solution face à une très bonne équipe iranienne, très bien organisée, Carlos Queiroz, qui connaît bien sûr le football africain pour avoir entraîné l'Afrique du Sud, dont je rappelle. C'est un grand monsieur du football mondial, ancien entraîneur du Portugal également. Il est passé par le Real Madrid, il compte le gros niveau. Et voilà, il a mis un schéma en place, ce qui a empêché les Marocains de trouver la faille pour aller marquer. Donc, ils ont marqué le seul but de la rencontre suite à un autogol marqué par un défenseur ou bien un attaquant marocain. C'est une grande déception côté marocain qui aurait pu prendre les 3 points de cette rencontre. Maintenant, le Nigeria aussi a trop déçu avec cette jeune formation. Eh bien, le Nigeria aurait pu chercher le nul face à cette équipe croate qui n'a pas trop convaincu. C'est vrai qu'ils ont gagné 2-0. Mais c'est pas un constat, c'est vrai que aussi que c'est le début, c'est les premières rencontres. Donc les équipes commencent timidement, les stars même des équipes favorites pour le titre final. Mais les Nigériens auraient pu faire bon résultat si également à ce niveau-là, les attaquants ou bien l'équipe dans son ensemble a joué un peu timoré, surtout au niveau de la défense où Balogun et Kong n'ont pas joué grand chose, puisqu'ils ont trop laissé Mandzukic prendre le dessus. Maintenant, il faut espérer avec les deux autres représentants, la Tunisie ou encore le Sénégal qui va jouer demain, la Tunisie qui est en train de jouer actuellement avec le premier buteur africain dans cette compétition, il s'agit de Sadio Mané.
Alors, Amine, depuis Casa, hein, le Maroc, l'Égypte, ces deux pays-là ont perdu, certes, mais c'est une fin, en fait. Ce sont des fins de match cruelles, on va dire, pour le Maroc et l'Égypte. C'est difficile quand même d'avaler cela.
Des fins de match cruelles, d'autant plus qu'ils arrivent dans les arrêts de jeu, à un moment où on se contente, on se dit, voilà, c'est un bon point de prix. Je rappelle que l'Égypte a évolué sans Mohamed Salah. Elle a, par moment, poussé l'Uruguay dans ses derniers retranchements. Il est vrai que les Uruguayens se sont heurtés à un excellent gardien de but, Chinnaoui d'Égypte, qui a remplacé au pied levé le vétéran Issam Hadari. Mais on a senti une équipe égyptienne plutôt timide dans ses contre-attaques. Il est vrai qu'en l'absence de Mohamed Salah, il y a moins de percussions offensives, il y a moins de puissance devant. Et c'est peut-être en étant consciente de ses maigres moyens, en tout cas de ses peu de prédispositions offensives, que l'Égypte a planifié son match. Le Maroc lui a démarré tambour battant le match face à l'Iran. Il est vrai que pendant les 20 premières minutes, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Mais au fur et à mesure que le temps passait, que les Marocains ne parvenaient pas à trouver le chemin défilé, il y a eu le doute qui s'est insinué. L'équipe d'Iran était bien organisée sur le terrain. Elle a fait de l'anti-jeu, quelques petites fautes par-ci, par-là, qui n'ont pas été sanctionnés à leur juste mesure. Bon, c'est peut-être subjectif de la part de l'arbitre de la rencontre, le Turc M. Shakir. Et puis, le doute s'insinuant, Hervé Renard a fait du coaching et ça a été plutôt un coaching perdant puisque deux des joueurs qu'il a introduits, Soufiane Amrabat qui a remplacé son frère aîné Noureddin, qui n'est même pas latéral de métier mais qui a été utilisé à ce poste-là, a commis cette faute. Et Aziz Bouhaddouz, qui était censé entrer apporter du punch en ligne d'attaque, a eu ce geste irréparable, malheureux, maladroit, qui met maintenant le Maroc dans une posture très défavorable, parce que sur le tableau de marche, il fallait battre l'Iran avant d'espérer grignoter un point par-ci par-là face aux deux ogres de ce groupe A, B, l'Espagne et surtout le Portugal. Donc maintenant, c'est un véritable barrage. Est-ce qu'on peut dire que le nul entre l'Espagne et le Portugal, c'est du pain béni pour le Maroc, parce que il le remet en course et fait en sorte que l'équipe dépende encore d'elle-même? Oui, mais c'est le champion d'Europe en titre, c'est Cristiano Ronaldo en super forme, et c'est une équipe qui est descendue d'une certaine euphorie, voire même excessive, à un certain abattement. Il va falloir supporter le choc, pouvoir digérer ce qui s'est passé vendredi et se remettre au boulot dès demain pour préparer la rencontre de mercredi comme il se doit.
Merci bien, Amine. Alors, la connexion a été rétablie avec Kinshasa. Alors, Thierry, l'Allemand champion du monde et en titre a chuté d'entrée face au Mexique. On a perdu Thierry de nouveau. Ok, donc l'Espagne, l'une des favorites aussi, a été contrainte au match nul 3-3 face au Portugal. Que dis-je, face à Ronaldo, on va le dire comme ça. La France a balbutié son football devant et l'Australie, même si elle a gagné 2-1, l'Argentine s'est contentée d'un match nul avec ce pénalty raté par Messi. Alors Jules, on va dire, les grandes nations de foot attendues n'ont pas toutes répondu présentes quand même.
Oui, mais voici un nivellement de valeur et à ce niveau-là, au début de la compétition, tout le monde est frais. Il n'est pas question de compter sur le banc, là où les grandes nations font la différence avec les petites. Et donc, elles sont plus difficiles à battre, les petites nations, à ce moment-là. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a une autre conséquence à ces résultats, disons, poussifs. C'est que des grands vont se rencontrer sûrement en huitième de finale et les enjeux seront plutôt, disons que les choses seront éclairées beaucoup plus tôt que d'habitude. Dès le huitième de finale, on peut avoir une Argentine-France, on peut avoir un Allemagne-Brésil.
Alors, je vous le disais tantôt, il n'y a pas d'équipe modeste. Eh bien, la Russie a explosé l'Arabie Saoudite 5-0. Coup d'éclat, où faut-il compter avec les Russes dans ce mondial? C'est une question que l'on se pose. Début mitigé du Brésil avec sa pléiade de joueurs Neymar, Coutinho et autres, 1-1 face à la Suisse. Les stars à ce mondial également, on en parle là, mais on revient à Thierry. La connexion a été rétablie de nouveau, je vais dire. Alors, Thierry, un début mitigé pour le Brésil quand même qui, on va le dire, est l'un des favoris quand même de cette Coupe du Monde-là, avec cette absence pratiquement de Neymar sur le terrain. Thierry, vous m'entendez?
Allô?
Oui, Thierry, allez-y, si vous m'entendez.
Je vous entends maintenant très bien. Vous dites?
Voilà, et donc, on parlait d'un début mitigé pour le Brésil et sa pléiade de joueurs de stars, Neymar, Coutinho et autres. 1-1 devant la Suisse, ce n'est pas rassurant.
Début mitigé, c'est vrai, hein, pour le Brésil, qui est l'un des grands favoris annoncés de ce monde. On a vu une très bonne individualité, mais pas encore une équipe qu'on va d'ailleurs annoncer avant la Coupe du Monde. L'une des joueurs emblématiques de ce pays, elle est là-dessus. Je sais qu'on a des joueurs de talent, mais je pense qu'on peut faire une équipe. C'est la fin de l'équipe de Neymar et Coutinho. Il faut arriver à cette sélection. Il a une idée pratiquement consistante. C'est un joueur pour travailler
Thierry. Alors, on va tout de suite aller à la pause avant de revenir parce que la liaison est décidément très difficile avec Kinshasa. One life, one dream, one moment, one team, one you, life's high, 1,000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah. Demain mardi, le dernier pays africain entre en lice. Il s'agit du Sénégal de Sadio Mané qui nourrit de grandes ambitions, mais qui doit d'abord affronter la Pologne de Lewandowski, le Sénégal qui revient en Coupe du Monde. 16 ans après sa dernière participation, le sélectionneur des Lions de la Teranga mesure l'importance de cette rencontre, de cette première sortie, on va le dire, de ses poulains. Aliou Cissé, que l'on écoute.
Les sorties, effectivement, pour nous, c'est ce match de demain. On s'est bien préparé. Maintenant, rentrer dans une compétition, le premier match, tout le monde le sait, c'est important. Même si ce n'est pas décisif, c'est très important. Donc nous avons envie de rentrer dans cette compétition par la belle des manières, c'est-à-dire faire un meilleur résultat, un bon résultat contre une très belle équipe polonaise. Le Sénégal, tout le monde connaît. On fait partie, en tout cas, des meilleures équipes africaines. On a des arguments à faire valoir, donc nous venons ici avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. Donc, ce n'est pas une question d'individualité. Donc, on est ensemble avec cette équipe depuis 3 ans. Chaque joueur, je les connais. Vous pouvez me faire confiance. Il y aura une très belle équipe.
Aliou Cissé, donc, qui s'exprimait au micro d'Amdinsi sur place à Kalouga, en Russie. Amdinsi qui est avec nous dans Sporama. Bonsoir, Amdine.
Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, Amdine, vous êtes dans la tanière des Lions. Comment se passe la préparation avant Pologne demain?
La préparation se passe très bien. L'équipe nationale du Sénégal a quitté Kalouga, qui sert de camp de base à l'équipe pour rallier quand même Moscou. Les Lions ont d'ailleurs effectué leur dernier galop d'entraînement. C'était ici au stade de Moscou où se déroulera le match contre la Pologne. Après les Lions, c'était au tour des Polonais aussi de s'entraîner sur la pelouse. Il faut dire que le temps est donné. Vous avez entendu tout à l'heure Aliou Cissé qui est confiant et qui mijote un plan pour pouvoir venir à découvrir de cette équipe polonaise. Il faut dire que c'est la première confrontation chaude de l'histoire entre Polonais et Sénégalais. Et ce match s'annonce quand même épique, puisque les deux équipes veulent quand même entrer dans cette compétition de la plus belle des manières. Aliou Cissé l'a fait savoir, même que l'entraîneur polonais qui est très serein, il dit même qu'il est un peu sûr que son équipe va battre l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est ainsi, comme disent les Anglais, on va voir. En tout cas, les deux équipes se sont bien préparées et le Sénégal aura la pression parce que depuis le début de cette compétition, les équipes africaines n'ont pas été à la fête. On va voir ce que cela va donner demain. En tout cas, les poulains d'Aliou Cissé, comme vous l'avez tantôt dit, Sadio Mané et ses partenaires tenteront d'éviter le Sénégal qui, en 2002, avait quand même réussi un exploit en battant la France en match d'ouverture. Donc, pour une bonne Coupe du Monde, cela passe par un bon résultat demain face à la Pologne. Et je pense que les Lions sont fin prêts. Yacouba.
Merci, Amdine. Alors, demain, toujours dans l'autre match de ce groupe, on aura la Colombie qui jouera contre le Japon à midi, temps universel. Et à 18h, l'Égypte refait surface et on comme ça avec le pays hôte, la Russie, pour sa deuxième sortie. Élisée, l'Égypte qui doit jouer le pays hôte, la Russie. On a vu cette Russie explosive devant l'Arabie Saoudite. Rien n'est gagné à l'avance.
Oui, rien n'est gagné à l'avance, Yacouba. Surtout que cette équipe russe
s'est retrouvé lors de sa première sortie. Ce n'était pas tellement attendu, hein, vu les contextes lors de sa préparation. Donc, c'est une victoire qui a libéré tout un peuple. Et c'est sûr que dans cette dynamique, eh bien, les Russes vont vouloir aller chercher une seconde victoire en attendant d'affronter l'Uruguay lors de la troisième journée du tout. Donc, les Russes savent que battre l'Égypte peut déjà leur permettre de se qualifier et éviter d'autres résultats. Et face à l'Uruguay maintenant, si l'Égypte veut se qualifier pour le second tour, c'est le moment à jamais. C'est de battre, bien évidemment, la Russie et pour son dernier match, ce sera face à l'Arabie Saoudite, ce qui sera un peu facile, hein, vu la prestation des Saoudiens. Donc, c'est un match qu'il faut gagner à coup sûr, coup de coup, et même un résultat nul ne les arrange pas, puisque plus jamais il y a un résultat nul que la Russie fait un nul également contre l'Uruguay lors de la troisième journée. Bien, les deux équipes, et la Russie et l'Uruguay, seront qualifiés. Donc, les Égyptiens doivent nécessairement remporter les trois points de cette rencontre pour la suite de cette compétition.
Alors, Jules, l'Égypte doit absolument remporter face à la Russie, le pays hôte. On sait que l'une des pièces maîtresses, hein, de cette équipe égyptienne-là, c'est Mohamed Salah, qui n'est pas très en forme apparemment. Alors, il n'y a plus de calcul possible à faire pour le deuxième match après une défaite, hein. Est-ce qu'il faudrait encore ménager Mohamed Salah?
Oui, je pense qu'il faut mettre des joueurs frais physiquement parce que le football russe et l'ancien football soviétique sont surtout caractérisés par leur circulation collective du ballon. Donc, à ce moment-là, l'adversaire doit être au top de sa forme physique pour les contrarier. Et donc, je crois que si l'Égypte s'amuse à aligner des joueurs en début de rencontre qui ne sont pas totalement en possession de leurs moyens, cela peut lui porter préjudice. Mais il devrait plutôt se servir de Salah comme un super sub, comme on dit, un super remplaçant à la Roger Milla dans les années 90, qui peut rentrer à tout moment et changer le cours du match. Je crois que c'est ce que l'entraîneur choisira de faire.
On espère bien. Alors, mercredi, on aura Portugal-Maroc à midi, temps universel. Portugal-Maroc, c'est un grand match, hein, pour le Portugal et pour le Maroc aussi, qui ne devrait pas se louper pour sa deuxième sortie. Écoutez Da Costa du Maroc.
Ah, l'attaque portugaise, on va la gérer tous ensemble. On va pas se fixer sur lui, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas que lui. Si aujourd'hui Cristiano arrive à montrer ce qu'il montre aujourd'hui, c'est grâce à des coéquipiers qui sont autour de lui, qui font des mouvements et qui font en sorte de le mettre en avant. Aujourd'hui, voilà, nous, ce qui va être important, c'est pas ce qu'on a devant nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est être concentré, être rigoureux dans notre travail, être solidaire. Une vraie équipe et montrer comme quoi, voilà, le premier match, ça n'était qu'un accident et montrer encore plus les valeurs de notre nation, tout simplement.
Alors, Amine Da Costa le disait tout à l'heure, il ne faut pas jouer contre Ronaldo, il faut jouer contre le Portugal pour mercredi.
Tout à fait, mais Ronaldo, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est la valeur ajoutée. Mais on rappellera que ce Portugal, entre 2016 et 2018, il a gagné en maturité. L'entraîneur Fernando Santos connaît tous ses éléments, et puis il y a de la qualité. En défense, on sait que Pepe, c'est un taulier, que le gardien de but, Luis Patricio, est incontournable, que au milieu de terrain, nous avons des joueurs comme João Moutinho, qui a une expérience considérable, qui a une qualité de passe extraordinaire. Bernardo Silva est venu apporter un plus de qualité à cette équipe alors qu'il n'avait pas disputé l'Euro. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo arrive en super forme. Si on ajoute à cela que Guedes, c'est la révélation de cette équipe du Portugal, on se rend compte que l'équipe du Maroc n'aura pas la partie facile. Il y a aussi un enjeu, c'est que les Marocains s'étaient qualifiés pour la seule fois de leur histoire.
C'est le générique qui annonce la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir été en direct, hein, dans Sporama. Merci à vous depuis Ikaza. On va dire également merci, au revoir à Élisée Oumpatino Boïcon. À Boïcon, pardon. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba, à lundi prochain.
Et enfin, Jules Valentin Ngoué à Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, à très bientôt.
Alors Amdine et Thierry nous ont quittés un peu plus tôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Sporama qui s'achève, hein, sur VOA Afrique. Tout de suite, le journal avec Claire Morin-Gibault.